Sans plus tarder, nous allons passer aux questions et réponses. Et comme d'habitude, je vous demanderai de bien vouloir fermer vos téléphones ou les mettre sur silencieux. Et à ceux qui vont prendre la parole, veuillez vous présenter ainsi que votre organe de presse. Nous prenons les questions en commençant sur la gauche. Levez la main et on va vous passer un micro. Première question. Oui, ici.
Eh bien, c'est Donatien Kambou de Porto Info. Ma préoccupation se situe sur l'avenir des enfants non scolarisés en zone de guerre, en zone de conflit. Alors, nous ne savons pas les organisations mondiales qui ont soutenu ou qui soutiennent les personnes déplacées. Quelles sont les dispositions qu'on a prises pour la scolarisation de ces enfants? D'abord, un. Et de deux, on nous dit que le PAM a remis et avait distribué des aliments chauds à un certain groupe des enfants. C'est pour combien de temps? Et ce sera pour combien de temps? Et cela, comment ça s'organisera pour que ces enfants soient sécurisés?
Merci pour votre question. Avant de passer la parole à mon collègue de UNESCO.
Un collègue de UNESCO?
Non, c'est...
UNICEF. Ok, avant de passer la parole à mon collègue de UNICEF, j'aimerais que quand vous posez des questions comme ça, au lieu de vous adresser à la communauté internationale, commencez par demander, je pense qu'il y a un ministre, il y a des ministères dans ce pays chargés de l'enseignement primaire, de l'enseignement supérieur, à tous les niveaux de l'éducation. Commencez par savoir qu'est-ce que ces ministères font pour ces enfants avant de vous tourner vers la communauté internationale. La façon avec laquelle vous posez cette question, c'est comme si que c'était de la responsabilité de la communauté internationale. Non, c'est d'abord de la responsabilité nationale et des ministères concernés. La communauté internationale ne peut que venir en appoint et aider ces ministères. Donc, la façon dont vous posez la question, je pense qu'elle est déjà erronée. Dans tous les cas, je vais passer la parole à mon collègue de UNICEF qui aura peut-être quelque chose à vous dire.
Je crois que je vais répondre à la place puisque les collègues de l'UNICEF ne sont pas là. Donc, les journalistes cherchaient à savoir les noms des organisations qui interviennent dans l'éducation d'urgence. Donc, l'UNICEF est les cluster leads, donc c'est les clusters qui coordonnent l'éducation d'urgence. Et à part l'UNICEF, il y a un certain nombre d'ONG, tant nationales qu'internationales, qui travaillent avec l'UNICEF. Donc, dans le camp des déplacés, donc s'il y a des gens qui se déplacent et qu'on identifie les enfants à l'âge de scolarisation parmi ces déplacés, on établit des écoles d'urgence. Ces écoles, ce ne sont pas des écoles construites en dur. Ce sont des dispositions qu'on prend juste pour assurer la continuité de l'éducation de ces enfants pendant qu'ils sont en déplacement. Donc, ils se sont déplacés puisqu'ils se sentent menacés quelque part. Les jours où ils décident de rentrer, ils vont rentrer. Donc, dans les camps sécurisés et dans des sites sécurisés, il y a des écoles qui sont là. Et le cluster éducation appuie ces écoles-là. Et comme Mounouba le disait, donc c'est de la responsabilité de l'État et les acteurs humanitaires sont là pour appuyer puisqu'il y a une situation de crise. Voilà.
Merci. Une deuxième question.
Je vais répondre à la question sur les cantines scolaires, si vous voulez bien. En ce qui concerne les cantines scolaires dans les camps déplacés, ce sont des repas qui sont servis aux enfants tant qu'ils sont scolarisés dans ces écoles-là, donc pour l'année scolaire. Il est bien évident que si les enfants ont l'opportunité avec leurs parents de pouvoir rentrer chez eux, ils ne fréquenteront plus ces écoles et il n'y aura plus de cantine. Mais globalement, le PAM chaque année nourrit 1,4 millions d'enfants dans ces cantines scolaires, dans plus de 2600 écoles, et ce programme dure sur toute l'année, c'est-à-dire de septembre à juin, où les enfants ont un repas par jour qui leur permet d'avoir ce qu'il leur faut en vitamines, nutriments et calories pour pouvoir suivre une scolarité et limiter ainsi les abandons scolaires, augmenter les taux de fréquentation des écoles et la santé en général des enfants.
Merci. Deuxième question, s'il vous plaît. Levez la main ceux qui ont des questions. Devant là-bas. Oui.
Merci pour la parole. Saint-Germain-des-Prés, amis du peuple, ma préoccupation, je l'adresse à Florence Marchal. Lors de votre discours, vous avez évoqué, entre autres, l'égalité des genres. Et la question, c'est de savoir de quel genre d'égalité il s'agit, dans la mesure où, lors de votre restitution, toutes les pages de votre chemise d'information ont été tournées vers les préoccupations relatives à la femme. C'est le cas de son autonomisation. Je trouve qu'il y a excès de poids dans l'un des deux plateaux de la balance du genre, qui est plutôt un concept à double modalité. Quelle est la place de l'homme? Pourquoi on en parle peu lorsqu'il s'agit du genre? Ah, merci.
La question, c'est de savoir pourquoi le genre... Je sais ici, j'interprète que le genre parle toujours de la femme, mais pas de l'homme. Je pense que c'est de ça qu'il veut dire. Est-ce que vous avez une... Voilà. Il y a quelqu'un de genre, quelqu'un qui veut répondre à... Ok, ONU Femmes.
Il y a un homme pour ONU Femmes.
Il y a un homme qui va répondre pour ONU Femmes. C'est déjà le genre, ça.
En tout cas, merci beaucoup pour la question. Mais je crois que ce dont Florence parlait, il annonçait plutôt... Excusez-moi. Je crois que Florence parlait plutôt de la tenue de la première réunion de concertation entre l'ONU Femmes et les organisations de la société civile pour la constitution du Conseil consultatif national, qui est un organe de la société civile qui appuie l'ONU Femmes dans la formulation de ses programmes et politiques pour l'appui à l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme en RDC. Donc c'est un organe de la société civile qui appuie l'ONU Femmes dans la formulation de ses programmes en RDC. Donc c'est ce à quoi fait allusion. Je crois que M. m'a dit que je ne suis pas une femme, j'ai parlé de... C'était l'équilibre qu'il y a à l'ONU Femmes. Donc voilà. Merci beaucoup.
Merci, merci pour la question. Nous allons prendre une question RTNC. Juste là, à votre droite. Juste ici, à votre droite.
Merci, c'est Venant, je vous dis ça, de la RTNC. J'ai deux petites préoccupations. La première, je l'adresse au lieutenant-colonel porte-parole. Vous avez tout à l'heure dénoncé le recrutement de jeunes dans la partie est du pays. Mais j'aimerais bien savoir si cela continue à faire l'objet de vos préoccupations, si cela est au cœur de vos préoccupations, vous, en tant que mission onusienne, ou ça se limite juste donner l'alerte et peut-être à ce niveau-là. Une autre question, c'est à propos du journalisme d'investigation, la télé qui va se tenir le 13 novembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, je ne sais pas qui précisément, à Médard. À Joseph, voilà, comme vous le permettez. Ça prendra combien de temps? Parce que, à notre entendement, le journalisme d'information, d'investigation doit, un peu de temps doit y être consacré pour que le travail se passe normalement. Je n'anticipe pas les choses. Monsieur Potopoto nous en dira un peu plus pour la consistance. Merci.
Mon colonel?
Oui, merci pour votre question. Je pense que au-delà de la MONUSCO, le recrutement de jeunes, le recrutement d'enfants est condamné aussi bien au niveau des Nations Unies qu'au niveau de toutes les autres instances internationales, régionales et même nationales. Évidemment que ce sujet nous préoccupe au premier point, dans la mesure au sein même de la MONUSCO, il y a une section spéciale, la section de protection des enfants, qui veille à tous ces recrutements d'enfants à travers la RDC et qui mène des actions aussi pour arrêter justement ce type de conscription des enfants afin de les enrôler dans les groupes armés et aussi bien au sein aussi des FRDC. Nous agissons pour essayer d'arrêter justement ce phénomène qui est condamné de manière générale par tout le monde.
Poto.
Bien, merci. Lorsqu'on a analysé le différent programme des cours qui sont donnés dans les écoles de formation en journalisme et en communication, les constats qui ont été faits, c'est qu'il y a un cours d'investigation en journalisme et qui essaie plus ou moins de montrer comment on procède pour la collecte des informations. Ça se limite presque à ça. Et c'est comme ça que, partant de ces constats, il était établi un désir avec toutes les écoles de formation journaliste de pouvoir discuter sur les approches théoriques, parce que le journalisme d'investigation, c'est un domaine spécialisé de formation en journalisme qui a ses approches méthodologiques et théoriques qui sont totalement différents du cours que vous recevez souvent, l'investigation en journalisme. L'atelier, c'est un atelier de début qui va prendre peut-être un jour, parce que là, nous allons non seulement voir les approches théoriques, mais nous allons aussi survoler la législation congolaise pour savoir si ce genre journalistique est praticable en RDC, si la loi le permet aussi. Donc, après cet atelier de mise en train, je crois qu'on va élaborer un programme beaucoup plus approfondi pour des formations qui vont prendre beaucoup plus de jours avec vos différentes écoles de journalisme. Merci.
Merci beaucoup.
Oui, je voudrais apporter une précision. Le journalisme d'investigation et faire que les journalistes effectuent leur métier de quatrième pouvoir et demandent des comptes à la fois au gouvernement et aux institutions, c'est aussi une préoccupation du PNUD. Et dans le cadre de notre programme de lutte contre la corruption, nous avons aussi organisé des cours, des formations au journalisme d'investigation, justement pour permettre aux journalistes de disposer de tous les moyens et de toutes les techniques nécessaires pour pouvoir étudier, analyser, par exemple, les rapports de la Cour des comptes. Je vous remercie.
Merci. Oui, Marley.
Roger Marley, Lukunga, CMCTV. Joseph Kony, leader de la LRA, on n'en parle plus autant présent. Cette personnalité a-t-elle échappé au radar et est-elle détection de la MONUSCO?
Mon colonel.
Non, pas du tout. Joseph Kony, ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas de manière ouverte que sa traque a cessé. Parce que, juste pour vous rappeler que l'Union africaine a déjà mis en place au moins 2500 hommes, 2000 de l'Ouganda, 500 du Sud-Soudan, plus 350 autres soldats centrafricains qui sont déployés le long de la frontière vers Yambio et appuyés en cela par les 100 Marines américains. Comme vous le savez, la traque de Joseph Kony se poursuit. Elle se poursuivra tant qu'on n'aura pas mis la main sur lui. Mais il n'a pas échappé au radar.
Merci. Derrière, oui.
Oui, Alain Mouzi pour Saint-Romalan Télévision. J'ai deux petites préoccupations. La première, au porte-parole militaire. Un militaire congolais a été fusillé la semaine dernière. Pour la partie rwandaise, c'était une mission d'espionnage. Alors que pour la partie l'armée congolaise, c'était les militaires étaient karma évadés. Vous, personnellement, quelle lecture ou quelle... comment retracez-vous les circonstances exactes de cette situation? La deuxième préoccupation à monsieur le porte-parole, l'ONU accuse l'Ouganda de soutenir les forces rebelles, précisément les M23, une accusation rejetée par Kampala qui menace d'ailleurs de retirer ses troupes engagées dans les missions de maintien de paix. Quelle lecture faites-vous de cette situation?
Merci, mon colonel.
Oui, merci pour votre première question qui a justement trait à la mort d'un soldat congolais et aussi au fait qu'on a enregistré du côté rwandais un blessé selon les différentes déclarations. Mais ce que je peux vous dire dès à présent, c'est que cette situation, cet incident fait l'objet actuellement d'investigations et comme je l'ai dit tantôt dans mon texte, à la lecture de mon texte plutôt, que ces investigations sont aussi appuyées par les membres du mécanisme conjoint de vérification de la Conférence internationale des Grands Lacs qui vont aussi participer à la conduite de ces investigations et dès que nous aurons des informations fiables, eh bien, nous les mettrons à votre disposition. Pour le moment, évidemment, il y a plusieurs sons de cloche, mais nous n'entrons pas dans ce débat et nous pensons que notre responsabilité, c'est de vous donner des informations fiables, vérifiées aussi.
Merci. Concernant la deuxième question, l'ONU n'a pas un rapport qui accuse l'Ouganda. L'ONU, à travers sa, à travers une équipe d'investigation qui a préparé un rapport qui doit être remis aux Nations Unies. Les membres de cette équipe ne sont pas des fonctionnaires des Nations Unies. Ce sont tous des fonctionnaires, ce sont tous des personnes non Nations Unies qui font partie de cette équipe, qui ont fait un travail qui doit être remis ensuite aux Nations Unies. Pour le moment, il n'y a qu'un brouillon de ce document qui existe. Donc, le document auquel vous vous référez, en fait, officiellement, n'existe pas encore. Prochaine question. En face.
Samuel Mbou du journal Explorateur. Je voudrais savoir, j'adresse ma question au colonel pour savoir, vous venez de citer le cas des Mbujimayi. Qu'est-ce qui se passe au juste de Mbujimayi? Et puis, quel sort vous réservez à un colonel congolais qu'on appelle John Tshibangu, qui s'est évadé là-bas, avec qui forme des médecins, il paraît. Et la population veut savoir qu'est-ce qui se passe au juste sur la situation sécuritaire de Mbujimayi. Qu'en dites-vous?
Merci.
Tantôt j'ai mentionné les incidents liés à Mbujimayi. Vous avez vous-même fait référence à la cause principale de ces incidents. Ça veut dire que, comme vous le savez, le colonel John Tshibangu, qui était chef d'état-major de la 4e région militaire, a fait défection en compagnie de certains soldats. Et depuis lors, les FRDC se sont lancés à ses trousses en vue de le capturer, ou en tout cas de mettre fin à son aventure dans cette zone-là. Et c'est suite aux différents déploiements, parce que comme vous le savez, les populations n'étant pas très habituées à voir un déploiement aussi impressionnant de force, évidemment, des incidents liés à la panique sont survenus. Les populations ont pris peur et ont essayé de trouver refuge dans les villages environnants. Donc voilà, en gros, ce qui se passe dans cette partie de Mbujimayi. Maintenant, qu'adviendra-t-il d'un colonel FRDC en désertion? Je pense que le cadre légal existe très bien au sein des FRDC pour prendre en compte ce type de choses, ce type de désertion.
Merci. Nous passons sur la droite. Je vois une dame. La dame, oui.
Neige Moussangi, Congo Web. On a suivi dans les ondes que le territoire de Mitumbo Katanga, au territoire de Mitumbo Katanga, le casque bleu ne sent ta femme, mon dame. Et pourtant, la population craint le représailles de Mai Mai. Qui justifie le départ de casque bleu dans ces territoires? Au colonel.
Oui, merci. Donc, effectivement, nous avions déployé une base opérationnelle mobile dans le territoire de Mitwaba, justement, compte tenu de l'insécurité qui prévalait dans cette zone-là, menée, ou si vous voulez, générée plutôt par les activités des Maïmaï Gédéon dans cette zone. Et nous avions aussi déployé cette base-là pour permettre au programme alimentaire mondial de pouvoir accéder à ces zones et de secourir les populations civiles. Évidemment, comme vous le savez, nous avons plusieurs types de déploiements. Nous avons des déploiements temporaires, nous avons des déploiements temporaires mobiles, nous avons aussi des déploiements qui sont à demeure qu'on appelle les COB ou les compagnies, les bases opérationnelles de compagnies qui sont fixes et qui rayonnent dans leur zone de responsabilité. Évidemment, cette mission était ponctuelle et effectivement, lorsque la situation sécuritaire a été rétablie, nous avons jugé bon de lever le dispositif pour pouvoir nous projeter ailleurs. Ceci repose la question fondamentale justement de l'étendue du territoire du Congo. Compte tenu de nos effectifs, souvent quand on parle des 18 000 hommes de la MONUSCO, les gens ont tendance à croire que c'est un chiffre impressionnant, mais ils ne tiennent pas en compte justement la dimension territoriale du Congo. Donc nous ne pouvons pas être partout, nous faisons le mieux que nous puissions, avec ce que nous pouvons et où nous pouvons. Et ensuite, il faut aussi se reconcentrer ailleurs. Donc, c'est ce qui justifie un peu le redéploiement des casques bleus ailleurs.
Merci. Juste à côté.
Carlos Mopili pour la CSRPM. Mon colonel.
Oui.
L'opération Amani Kamilifo, l'unique appréciée par tous les Congolais, et jusqu'à présent, on la déclare partout au sud Kivu. Mais pourquoi vous présentez avec timidité la situation qui est catastrophique dans ces côtés, dans ces coins-là? Par exemple, dans le territoire de Shabunda, il y a la tracasserie des services de l'État. Il y a le PAM et le il y a le PAM et les FAO qui ne sont pas à disponibilité à faire descendre les vivres là-bas à cause de l'insécurité. Il y a aujourd'hui les Raïa Mukombozi qui s'ajoutent. Mais présenter la situation avec gravité pour que les autorités du pays puissent lever la suspension. Votre commentaire.
Ah oui, merci.
Deuxième préoccupation à Madame Florence. Vous avez parlé du développement durable. Je remercie le PAM parce que selon le verbatim annuel, on trouve PAM quand même parler du développement au Congo et parler de l'environnement. Parce qu'on ne peut pas parler du développement durable sans faire allusion à l'environnement. Mais au Congo, on ne pollue pas l'environnement par l'industrialisation, mais par la guerre et par la pauvreté. Mais pourquoi l'UNESCO qui gère le patrimoine de l'humanité, c'est-à-dire le parc, ne fait pas allusion lors de conférences de presse. La CICR qui est censée d'éduquer les militaires pour éviter les destructions environnementales n'en font pas aussi écho à ça. Qu'est-ce qu'on espère pour cette éducation du développement durable à l'allusion avec la guerre dans ARDC? Merci.
Mon colonel.
Oui, merci. Donc, je commencerai par dire que je suis heureux que vous puissiez, à l'instar de plusieurs autres compatriotes, reconnaître l'efficacité ou en tout cas l'impact positif que l'opération Amani Kamilifo a eu dans la traque contre les FDLR, particulièrement au sud Kivu. Mais vous conviendrez aussi avec moi que l'opération Amani Kamilifo n'a pas été suspendue par la MONUSCO. C'est une opération conjointe et comme je le dis, il revient à l'autorité de l'État de décider ce qu'il faut faire de ces opérations ou pas. Donc c'est l'autorité supérieure qui a suspendu l'opération Amani Kamilifo. Effectivement, en suspendant l'opération Amani Kamilifo, donc nous baissons la garde, ça veut dire que la traque n'est pas et la pression ne sont pas maintenues sur les groupes armés qui en étaient les cibles. Il est tout à fait logique qu'avec le redéploiement des unités FRDC vers le nord Kivu, où une autre zone de tension avait été s'était manifestée, il est tout à fait normal que les vides sécuritaires créés par ce shifting de force puisse donner la latitude aux groupes armés de reprendre un peu du poil de la bête. Toutefois, il faut aussi reconnaître que aussi bien la force de la MONUSCO que les FRDC ne sont pas restés les bras croisés. C'est pour cela que je viens de vous parler de deux opérations qui ont été lancées. L'une à Kalehe, où nous avions effectivement remarqué que suite aux différents massacres qui avaient lieu à Mugunga, nous avons lancé l'opération Djenga Usalama. Et dans le territoire de Fizi, où Yakutumba, plus les FNL, les Forces Nationales de Libération du Burundi, avaient aussi contrôlé certaines localités, nous avons décidé conjointement de traquer et d'éradiquer ces groupes armés de ces deux territoires que je viens de mentionner tantôt, ça veut dire le territoire de Fizi et le territoire de Kalehe. Et je vous ai tout à l'heure donné les résultats positifs qui sont en train d'être engrangés par cette coalition FRDC-MONUSCO. Et pour Shabunda, comme vous l'avez dit, effectivement, vous savez que Shabunda, c'est le plus grand territoire du sud Kivu, premièrement. Deuxièmement, effectivement, à Shabunda, compte tenu de l'éloignement, on n'a pas beaucoup de présence à Shabunda, mais des opérations sont menées à Shabunda et les FRDC, de manière unilatérale, sont en train de faire du bon travail. La preuve, ils ont eu à débusquer et à dégager les Rahia Mutombo qui de Kingulube il y a quelques jours. Ils sont en train de poursuivre et de mettre la pression sur Zeraya Mutomboki et les FNL qui partent dans tous les sens. Donc ces opérations qui ont été menées en compensation ou en tout cas en remplacement de Amane Kamilifou sont en train de produire des effets positifs pour le bien des populations du Sud Kivu.
Merci Florence.
Concernant votre préoccupation sur les liens entre développement, pauvreté et conflit, je crois que ce sont des thèmes que nous abordons quasiment toutes les semaines à la conférence de presse. Aujourd'hui, pas moins de 3 annonces ont été liées à ça, entre le message du secrétaire général des Nations Unies sur la journée qui a été célébrée hier, entre l'efficacité du développement durable, entre la journée de la science. Donc, et ce sont pourquoi on vous en parle régulièrement, parce qu'au niveau du gouvernement, ce sont des préoccupations qui sont reprises dans le DSRP2, le document de stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté, et également de manière en alignement, qui sont repris également dans le futur plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement RDC. Donc oui, le lien, l'interdépendance entre développement, pauvreté, développement durable, pauvreté et conflit, c'est quelque chose sur lequel à la fois le gouvernement et les Nations Unies, c'est un dossier sur lequel on travaille pour le développement durable de ce pays.
Merci beaucoup. Et encore une fois, à chaque fois que vous pointez le doigt, rappelez-vous qu'il y en a 4 qui pointent vers vous. Vous êtes tout le temps entre qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites. Mais vous, en tant que journaliste et homme des médias, qu'est-ce que vous, vous faites? Vous avez aussi une responsabilité. Est-ce que vous prenez cette responsabilité-là? Ne demandez pas toujours ce qu'ils font. Dites ce que vous, vous faites. Vous êtes tout le temps en train de pointer le doigt. Qu'est-ce que vous, vous faites en tant qu'homme ou femme des médias? Vous avez aussi une responsabilité. Assumez-vous ces responsabilités? Dénoncez-vous ces choses? Appelez-vous, rappelez-vous ces choses à l'attention des personnes qui peuvent prendre des actions dans les secteurs concernés? Non, vous ne le faites pas. Alors ne venez pas toujours pointer le doigt ici. Sur ce, je pense que nous avons fini. Merci beaucoup d'être venu. Merci à nos auditeurs qui nous ont suivis en direct et rendez-vous mercredi prochain. S'il vous plaît, j'ai une annonce à vous faire. Le micro est coupé? On est en direct? Ok. Le mercredi prochain, à la fin de la conférence normale, la conférence presse normale, les droits de l'homme aimeraient avoir un peu de temps avec vous pour vous présenter un nouveau rapport sur la République démocratique du Congo concernant la situation des droits de l'homme et les exactions dans ce pays. Ils auraient voulu le faire pendant la période de la conférence de presse, mais étant donné l'importance de ce document, ils veulent vous donner tout le temps nécessaire pour poser toutes les questions que vous voulez. Alors, si vous pouvez rester 30 minutes de plus la semaine prochaine, ce sera très apprécié. Merci beaucoup.